On est un petit peu en retard pour commencer l'année avec un nouveau livre. Est-ce que vous êtes des lecteurs? Est-ce qu'on a des lecteurs dans la salle? Il y en a qui aiment beaucoup lire? Oui?
Pas de grands lecteurs. On n'a pas beaucoup de grands lecteurs. C'est comme moi. J'ai très peu le temps de lire.
Bon, quand est-ce qu'on... Mais il m'arrive de lire des fois des livres. Et pourquoi on les lit? Parce que, des fois on tombe dessus par hasard. Ou on a écouté une publicité, ou c'est une nouveauté, on a dit, il y a un nouveau livre. Ou parfois parce qu'on aime l'auteur, tout simplement. Et donc, nous allons commencer, nous autres, un nouveau livre. Alors, pourquoi le choix de ce livre? Il y a des circonstances. Prêche la parole à Toulouse, à l'école de prédication à Toulouse, PLP, a présenté ce livre. On a travaillé sur ce livre cette année à Toulouse, on est en train de le faire. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que Patrick et moi, on pensait, on a quand même, ça serait bien qu'on soit un peu dynamisé dans l'Église, voilà, pour le travail du Seigneur et pour être tous ensemble investis là-dedans. Et aussi, on l'a choisi parce que, bien sûr, on aime l'auteur. Hein. C'est le médecin bien-aimé, hein, l'auteur de ce livre. L'évangéliste, l'historien aussi, qui a écrit l'évangile, l'histoire de Jésus, l'évangile selon Luc. Et donc, on vous propose avec Patrick donc, de passer un moment dans le livre des Actes. Toute une section dans le livre des Actes, tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Donc, le titre, les Actes des Apôtres, c'est comme ça qu'on désigne ce livre jusqu'à présent. Ou alors des fois on abrège, on dit Actes des Apôtres, ou alors on dit simplement les Actes et tout le monde comprend. Bon, il y en a qui diraient, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux l'appeler les Actes du Saint-Esprit, parce que la troisième personne de la divinité est tellement présente dans ce livre. Ou bien d'autres disent, non, on devrait l'appeler les Actes du Seigneur Jésus ressuscité, parce que finalement c'est lui qui est à l'origine de tout ça. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et il le fait à travers son peuple, le peuple de Dieu, qui va grandissant, grandissant, grandissant. Et il le fait par la force, par la puissance du Saint-Esprit. Les Actes du Seigneur Jésus ressuscité. Pourquoi pas? Quel que soit le titre, on comprend en tout cas qu'on a affaire à un texte qui est une narration. Ça va, on va pas trouver de la poésie, on va pas trouver des règles de conduite, des règles de loi, ou on va pas trouver de la doctrine. On va pas trouver, non, ce n'est pas non plus un roman ou une fiction. Non, c'est un récit réel qui s'est réellement passé et Luc lui-même a été partie prenante. Il a vécu lui-même certaines parties du livre qu'il a couché par qui, dont il a fait l'histoire. Au-dessus d'un titre, vous savez, quand vous avez un titre, des fois, il y a un sous-titre. Et c'est bien les sous-titres. Et Paul Monclerc, qui a travaillé à PLEP à Toulouse, qui nous a préparé, qui a travaillé sur le livre des Actes, voilà ce que propose Paul Monclerc. Hein. Il est à une église à Montastruc, pas loin d'ici, donc. Sous le titre, il propose donc « Soyons remplis d'assurance par l'Esprit Saint pour vivre et proclamer l'Évangile de Jésus-Christ ensemble. Rien ne peut empêcher l'avènement du royaume de Dieu. » Plutôt ce serait « Ensemble, rien ne peut empêcher l'avènement du royaume de Dieu. » Alors, est-ce que cela vous intéresse comme lecture? Est-ce que ça vous intéresse de démarrer ce livre et de voir tout une... On ne va pas tout le voir d'un coup, mais à travers une dizaine de messages, on va voir toute cette partie où on a le démarrage, la naissance de l'Église à Jérusalem, ce qu'elle est devenue. Peut-être, bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réponses enthousiastes. Bon, on va le faire quand même. On va le faire quand même. Voilà, quel est le titre que j'ai choisi pour le message d'aujourd'hui, pour cette introduction. Qui est-ce qui connaissait cette série télévisée qui avait à une époque Mission Impossible? ça dit quelque chose à moi, je suis trop. Il va y avoir des choses de plus d'actualité aujourd'hui. J'ai choisi ce titre, Mission Impossible. Mais on va voir cela ensemble. Alors, on va lire les premiers versets, on va faire comme une lecture. Voilà, on découvre, livre nouveau, et puis on commence au début. Hein. Voici comment ça commence. Alors, je vais me mettre avec un coup, parce que comme je vais, pour ne pas se mélanger les pinceaux. Comme je vais faire des allées-venues dans d'autres textes de Luc. Voilà, on se voit moins perdu si on a le texte à l'écran. Alors, je lis dans la traduction second 21, livre des Actes, premier chapitre, premier verset, vous pouvez lire avec moi les trois premiers versets. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Voilà cette première partie, voilà ce premier texte. Cher Théophile, écrit-il, cher Théophile, ça veut dire Théophile aimé de Dieu. C'était un nom courant à cette époque-là, paraît-il, ce que nous disent les historiens, mais c'est aussi une façon de s'adresser au peuple de Dieu, à tous les chrétiens, tous les aimés de Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve dans son premier livre ? Comment avait-il commencé, Luc, son premier livre ? Et le premier livre, donc, c'est le récit qu'il a fait. On va le lire, il a écrit lui-même. Et l'objectif de son premier livre, dans son introduction de l'évangile de Luc, chapitre 1, dans le premier livre, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole, les apôtres donc. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu avais reçus. Premier livre dont l'évangile de Luc a été écrit pour qu'on reconnaisse la certitude de l'enseignement reçu. La certitude de tout ce qui concerne l'histoire de Jésus depuis sa naissance, depuis son ministère, son travail et les enseignements qu'il a reçus jusqu'à son rejet, sa mort à la croix et sa résurrection. Comment se termine ce livre ? Il suffit d'aller voir à la fin de l'évangile de Luc et je vais lire le dernier chapitre, Luc chapitre 24, et on va voir qu'il y a un chevauchement entre la fin du livre de Luc, de l'évangile, et le début du livre des Actes. C'est vraiment une continuité, mais avec sagesse, l'apôtre Luc a fait un petit chevauchement. L'un introduit l'autre et l'un prend à la suite de l'autre. On n'est pas perdu comme ça. Luc 24, verset 44, Jésus dit, il est ressuscité, hein, c'est après qu'il ait raconté la façon dont il est ressuscité et ce qui s'est passé. Il a trouvé des apôtres bien incrédules. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, a dit Jésus, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ensuite, ça continue ainsi. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Le livre se termine par l'incroyable résurrection de Jésus, dûment vérifiée et attestée. La mort et la résurrection du Messie sont en effet prophétisées dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Jésus a aussi précisé que les prophéties annoncent la repentance, le changement radical envers Dieu et le pardon des péchés serait prêché, serait annoncé, serait proclamé en son nom à toutes les nations. En partant de Jérusalem, ça allait toucher tous les peuples de la terre. Et il leur demande, ne bougez pas, restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il s'agit de recevoir le Saint-Esprit. Et la dernière phrase nous a laissé avec Jésus qui monte au ciel. Et donc là, on a un petit peu dans notre texte, Luc va reprendre les paroles de Jésus, pas exactement les mêmes. On peut facilement comprendre que Jésus a répété dans ses 40 jours, il a répété plusieurs fois les mêmes choses, plusieurs fois le même enseignement de façon différente, mais toujours le même à plusieurs moments. Et donc on trouve ces textes et ces paroles de Jésus légèrement différentes d'un évangile à l'autre, ou là de l'évangile de Luc au début du livre des Actes. En tout cas, Luc considère qu'on connaît déjà l'histoire. On connaît l'histoire de Jésus, on connaît son enseignement, on connaît ce qu'a été sa vie, on connaît ce qu'a été sa mort et la façon dont Jésus a expliqué pourquoi il allait mourir et sa incroyable résurrection. On part on connaît tout cela. Et il répète simplement dans notre texte ici, après avoir souffert, juste une parole pour nous rappeler la crucifixion du Messie, la façon la plus terrible et la plus horrible qu'il était faite de pouvoir faire souffrir un homme à ce moment-là, c'était la crucifixion. Et il paraît que les hommes n'ont rien inventé de plus terrible depuis. La crucifixion était la façon dont Jésus-Christ a souffert. Et ce petit mot ici rappelle cela. Et il se présenta vivant à eux et il leur donna les preuves. Donc, lisons la biographie de Jésus, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage à le lire. J'ai ici le récit complet, sans les versets, sans les chapitres, comme un livre suivi, comme on lirait un livre dans une librairie. Si vous voulez, je vous le donne. J'ai vu qu'il y avait trois mots-clés dans ce passage. Il a donné ses ordres. Jésus a donné des ordres. Et aujourd'hui, c'est un mot, on n'aime pas recevoir des ordres. Lui, il a donné des ordres. C'était le Seigneur. Aux personnes qu'il avait choisies, il a toute autorité. C'est lui qui pilote, qui drive tout. Et il a donné des preuves de sa résurrection. C'est lui qui a tout fait. Alors, lisons la suite maintenant. Les deux versets suivants. Quatre et cinq. Alors qu'ils se trouvaient à leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dieu va envoyer le Saint-Esprit. Il avait déjà expliqué en quoi ça consistait. Ils étaient déjà prévenus, il avait fait un grand discours qui est reporté par l'apôtre Jean dans son évangile. Et je voudrais, pour savoir de quoi on parle, relire, c'est toujours pareil, on a des textes, c'est une suite, hein, dans l'évangile de Jean, quelques passages dans la chambre haute, lors du dernier repas, quelques passages que Jésus a expliqués à ses apôtres sur la venue du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Jésus a dit, Jean 14, 16, « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Un petit peu plus loin au verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que je vous enverrai, pardon, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Si on tourne la page, chapitre 16, versets 7 à 15. « Je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, le monde, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Comment la réception du Saint-Esprit allait se passer ? Jésus ici nous rappelle le baptême de Jean. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et les apôtres qui devaient se poser, mais comment ça va se passer? Comment le Saint-Esprit va être envoyé? Eh bien, ça va être un petit peu comme le baptême de Jean. Et comment ça s'était passé, le baptême de Jean? Jean, il y avait des candidats qui étaient là pour le baptême, qui venaient à lui. Et Jean, il est plongé dans l'eau. Et ils étaient ressortis de l'eau. Et donc, en quelque sorte, les apôtres savaient qu'ils allaient être plongés dans le Saint-Esprit et que c'était quelque chose qui allait être, bien sûr, volontaire, comme on était volontaire pour être baptisé, comme on allait au-devant de Jean pour faire le baptême d'eau, le baptême qui s'appelait à cette époque-là le baptême de repentance. Alors là, dans ce passage, il y a deux mots clés, c'est baptême. Et c'est Saint-Esprit. Dieu va envoyer le Saint-Esprit. La suite de notre texte. Alors que les apôtres étaient réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une nouvelle mission pour les apôtres une nouvelle mission. D'abord, il pose une curieuse question. Est-ce que le Saint-Esprit sera donné en même temps que toi, tu vas venir rétablir le royaume où tu vas venir régner comme roi à Jérusalem? Pourquoi ont-ils posé cette question? Est-ce qu'ils avaient hâte que le règne de Jésus arrive? Sans doute. Est-ce qu'ils se sentaient bien incapables de faire quoi que ce soit sans le Seigneur Jésus, une fois que le Seigneur Jésus, tu seras plus là? Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire, nous? De quoi on est capable? Lui-même avait dit d'ailleurs, sans moi, vous ne pouvez rien faire dans la chambre haute. Jean 15, 5. Peut-être ils ont peur, peut-être ils manquent de courage. Il y a quelques semaines encore, en arrière, Jésus avait été crucifié et ils s'étaient réfugiés ensemble, ils avaient fermé toutes les portes, ils s'étaient enfermés à double tour. Est-ce que c'était la peur? Bon, ce qui est curieux, c'est qu'ils connaissaient quand même la réponse. Hein. On a lu tout à l'heure les avertissements de Jésus et les enseignements de Jésus concernant la venue du Saint-Esprit qui devait venir pallier à l'absence du roi, à l'absence de Jésus. Et donc, s'il palliait à l'absence de Jésus, c'est que Jésus ne serait pas là et qu'il ne reviendrait pas quand le Saint-Esprit allait venir. Le Saint-Esprit serait leur avocat, leur défenseur, leur consolateur pendant l'absence de Jésus. Il était celui qui compléterait son enseignement, qui leur rappellerait tout ce que Jésus avait enseigné. C'est celui, enfin, qui allait convaincre le monde entier, le monde des non-juifs, de péché, de justice et de jugement. Et enfin, peut-être surtout, c'est lui, le Saint-Esprit, qui allait glorifier Jésus-Christ comme il n'avait jamais été glorifié jusque-là. Donc, par rapport, il y a une curieuse question, mais Jésus va leur donner une réponse qu'il savait déjà, hein, dans Marc, chapitre 13, versets 32 à 37, je lis ce qu'il avait dit concernant son retour, le moment de son retour. On a lu, il avait dit, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Les apôtres, donc, n'ont pas à savoir quand Jésus reviendra, verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Personne ne connaît la date. Les anges ne le savent pas. Le Fils ne le sait pas. Les démons ne le savent pas. Alors, quel défi on lance à Dieu en ayant la prétention de trouver ou de connaître ou d'affirmer, voilà, Jésus-Christ va revenir à tel moment. C'est en quelque sorte vraiment un défi que l'on lance à Dieu. Et il y a des petits malins qui font ça régulièrement. Hein. Ils disent, oh, on ne connaît pas le jour ni l'heure, on ne peut pas savoir le jour ni l'heure, mais on peut connaître l'année, on peut connaître le mois. Non, il faut fuir vraiment ces personnes-là, elles ne sont pas du tout dans les instructions que Jésus a laissées à ses apôtres. Jésus ne veut clairement pas que les apôtres passent du temps à essayer et de l'énergie à essayer de trouver quand est-ce que Jésus va revenir. Il a une autre mission pour eux dans laquelle ils doivent se concentrer. Une mission et une seule mission entre le moment où Jésus est parti et le moment où Jésus doit revenir. Verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. pour cela, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On l'a vu tout à l'heure, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est puissant. Et voilà donc de quoi répondre à leur crainte. Jésus va partir dans un peu de temps, mais Dieu même va venir habiter en vous, en quelque sorte. Et Dieu est puissant, et celui qui va habiter en vous est puissant. Jésus donne une mission aux apôtres pendant son absence. À un autre moment, il avait dit, Matthieu chapitre 28, « Allez, faites des gens, je lis dans la traduction NBS, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Et ici, donc, les apôtres doivent être des témoins dans la ville du grand roi, dans le pays du grand roi et dans la planète du grand roi, car tout est à Dieu. Le royaume de Dieu doit être présent partout, partout en quelque sorte. Il doit y avoir des ambassades, il doit y avoir des représentants du royaume de Dieu sur la terre. Et il va y avoir une progression. Ils devront marcher, ces apôtres, ils devront se déplacer de Jérusalem, aller en Samarie, aller dans toute la Judée, et de là, aller à toutes les nations. Tout un programme qui, certainement, va prendre beaucoup d'énergie et va prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas la première fois que les apôtres sont envoyés en mission. Ce n'est pas, quelque part, ils n'étaient pas surpris de ce qu'ils soient envoyés en mission. C'est la troisième fois, deux fois dans l'évangile de Luc, les apôtres sont envoyés en mission. Et chaque fois, c'était seulement dans le pays d'Israël, avec une nouvelle qui était plus simple. Simplement, le royaume de Dieu arrive, le royaume de Dieu approche. Il faut se repentir. Un message simple. Et les deux fois précédentes, ça avait été vraiment quelque chose d'enthousiasmant. Ils étaient revenus dans la joie de ce que Dieu avait accompli à travers leur ministère. Alors certainement, cette troisième mission allait réussir. Être témoin de Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, il y a un sens légal dans l'Écriture. Deux ou trois témoins sont nécessaires dans un tribunal, dans une accusation quelconque. C'était des témoins, deux ou trois témoins. Donc il y a un sens légal à la notion de témoin. Il y a aussi l'attestation d'un fait, hein, quand il y avait, par exemple, une transaction commerciale, quand il y avait une alliance. Tout ça se faisait devant des témoins, des personnes en chair et en os qui allaient pouvoir attester de ces choses. Vous serez mes témoins. Dans le mot de témoignage, rendre un témoignage, il y a aussi une portée théologique qui est profonde dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans le désert, il y avait ce qu'on appelle la tente du tabernacle. Et la tente du tabernacle, c'est là où était Dieu. La présence de Dieu était représentée dans cette tente. Il était là, à la tente du témoignage. La tente du témoignage. On appelait ça la tente, le tabernacle du témoignage. Il n'y a plus de tabernacle aujourd'hui, mais il y a des témoins. Et quatrièmement, le mot grec est le mot martus pour témoin, qui a donné en français martyr, mais ça, c'est encore toute une histoire et je ne veux pas anticiper sur la suite. Pour les apôtres, il s'agissait donc de rendre témoignage de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient entendu, de ce qu'ils avaient touché de leurs mains. Le Messie ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus pour apporter le salut à tous, à tous les habitants de la terre jusqu'à ses extrémités. Et les deux mots clés de ces trois versets, c'est puissance et c'est témoignage. Puissance et témoignage. La suite de notre texte, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il les regardait et une nuée le cacha à leurs yeux. Comme ils avaient des regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et Morel, dans son introduction au culte, nous a rappelé ces paroles et nous a rappelé ce fait de retour de Jésus-Christ. Un événement extraordinaire se produit. Jésus-Christ monte. Alors, il est dans un corps, dans son corps humain, dans son corps glorifié cependant. Et puis, il le voit monter. Ce devait être quelque chose de progressif de l'âme pour qu'il se rende bien compte. Mais qu'est-ce qui est en train de se produire? Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Le Seigneur s'en va. Le Seigneur s'en va. Ça y est, il se passe ce qu'il avait annoncé. Il s'en va auprès de Dieu. Il s'en va auprès de son Père. Et il le voit monter. Leurs yeux montent, jusqu'à ce qu'une nuée le dérobe à leurs yeux. Alors la nuée, bien sûr, ça rappelle la manifestation de la présence de Dieu. Dans le désert, là, il y avait la nuée. Morel en a parlé quand ils étaient là devant la mer. Il y avait cette nuée qui était entre eux et l'armée de Pharaon. Il y avait cette nuée qui les conduisait, qui les guidait dans le désert. Cette nuée qui montait au-dessus de la tente du tabernacle. Et dans le temple de Salomon également. Et également un moment de la transfiguration, l'expérience que les apôtres, trois apôtres eux-mêmes, ont vécu. Donc il y a également des anges qui sont venus faire une annonce. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu du ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. La mission dure jusqu'au retour de Jésus. Les anges étaient venus annoncer la naissance de Jésus. Les anges étaient venus annoncer la résurrection de Jésus. Et là, les anges viennent annoncer son retour. Comment il va faire pour revenir? Et comment ça va se passer? Voilà, c'est le scoop qui le ramène. De la même manière que vous l'avez vu partir, de la même manière, il va revenir. Mais, on ne sait pas quand. Et le mot-clé de ce passage, c'est « Jésus reviendra ». Qu'est-ce qu'on trouve dans le verset suivant? Je ne l'ai pas mis, le verset suivant de Actes, je vais le lire. Ça fera partie du message pour la semaine prochaine, mais c'est intéressant de le lire. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à environ la distance d'un chemin de sabbat. Ils sont donc revenus, ils sont rentrés, et on a vu disjoncter là, je ne sais pas pourquoi. Tu sais le remettre au moins? C'est là dans le cajou. Qu'est-ce que les apôtres ont dû se dire quand ils étaient sur le chemin de retour à Jérusalem? C'est pas dit, mais comme on les connaît, c'est sûr qu'ils ont discuté entre eux. qu'est-ce qu'ils ont pu discuter entre eux. Je voudrais vous inviter maintenant, on est assez nombreux, j'espère qu'on va avoir des idées, mais qu'est-ce qu'ils ont pu penser, ces apôtres, quand ils rentraient chez eux? Qu'est-ce qu'ils disaient, d'après vous? Qu'est-ce qu'ils ont pu discuter entre eux? Vous les imaginez, voilà ce qu'ils viennent de voir, ce qu'ils viennent d'entendre, et ils rentrent à Jérusalem, ils suivent les instructions. Qu'est-ce qu'ils pensent? De quoi ils discutent? Bon, d'accord, ils ne sont pas bavards. Je suis désolé de vous impliquer dans mon message, que vous en faisiez pas, que vous en faites partie. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Qu'est-ce que... Bon, mettez-vous à leur place, plus simple. Voilà. De quoi vous allez parler? Qu'est-ce que tu vas dire à Morel, à Bernardo? Bernardo, qu'est-ce qu'il va dire à Samuel? Céline, qu'est-ce qu'elle va dire à Fallon? Bon, je pense qu'ils vont dire, ah, c'est chaud là! Maintenant, ça y est, on envoie la poudre là. Qu'est-ce qui va se passer pour nous là? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Quelle est cette immense mission qu'on a? Le monde entier, il a parlé. Du monde entier. Allez, dans le monde entier. Mais comment on va pouvoir faire ça? Mais comment? Comment ça va se faire? Mais on n'est rien, nous autres. On n'est rien. Comment ils ont pu imaginer ça? Par où on va commencer? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'était simple. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient attendre. La première des choses qu'ils devaient faire, c'est attendre. Attendre quoi? Le Saint-Esprit. Attendre que la puissance de Dieu arrive. Et après, ma foi, certainement, Dieu allait les conduire. Et peut-être qu'ils se sont rassurés les uns les autres. On connaît le Seigneur. Il ne nous abandonnera pas. Il va renvoyer l'Esprit Saint. Et ce sera une nouvelle page pour nous, une nouvelle mission. Mais quelle mission? Quelle mission? J'avais un collègue de travail, il y a très longtemps, j'étais très jeune, j'avais une trentaine d'années. Et un jeune collègue de travail, et lui, il s'occupait des interventions chez les clients. Et c'était le début des téléphones portables. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, et puis il en avait deux dans les poches derrière, là. Tchac! Et puis il se promenait comme ça, un petit peu comme un cow-boy, là. Et puis, de temps en temps, ça faisait un musique. Ton, 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 ton. Ah, une nouvelle mission, un nouveau client, pareil, dégainé, son téléphone, là. Allô, ouais, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Ok, je viens, j'arrive. Hop, il montait sur la voiture, et il y allait. C'était sa passion. C'était sa passion. Les missions impossibles. C'était ça qui le faisait vibrer, c'était ça qu'il avait envie de faire. Bon, on n'est pas tous comme lui. Moi, j'aime bien être casanier. Moi, il y avait de problèmes, mieux c'était. Mais il n'empêche que la mission est là et tout le monde, tous les apôtres vont être impliqués dedans. Et on va suivre et on va lire à travers ce livre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait et l'exemple qui nous laisse. Cette mission, en tout cas, vous le savez, est toujours d'actualité. On va prier. Seigneur, merci pour ces hommes qui étaient comme nous, mais choisis par toi, aimés par toi, équipés par toi. Et c'était ce qui faisait toute la différence. Il y a tellement de choses à apprendre dans la suite de livres pour ce qui concerne le Saint-Esprit, la façon dont il va venir, la façon dont il va habiter le croyant et tout ce qui va se passer, tout ce qu'il va mettre en œuvre, la façon dont l'Évangile va se propager, la mission va s'accomplir jusqu'à présent, et rien ne pourra l'arrêter. Merci pour ce texte passionnant qui nous attend. Merci pour tout ce que nous allons pouvoir vivre avec ces apôtres, avec eux, et merci pour l'exemple qu'ils vont nous laisser, et toute ce modèle de l'enseignement des apôtres, tout ce qu'ils vont placer comme fondement, tout ce qui va être organisé pour que l'Église de Jésus grandisse sous la main puissante de son Seigneur. Merci de nous associer à cette incroyable mission. Chacun à notre niveau, alors on se sent comme sans doute complètement perdu, complètement dépassé. Seigneur, reviens vite. C'est peut-être la prière de notre corps tant on est tellement terrorisé par cette mission. Mais tu as donné ton esprit qui fait des choses extraordinaires à travers nous. Merci. Par Jésus. Amen.